Se faire plaisir, toujours au bon prix, chez Auchan. Jusqu'à lundi, grâce à votre carte Waouh Auchan, cagnottez 60% sur le deuxième paquet de linguine Auchan Tavola in Italia.
Eh, avec une offre pareille, ça sent déjà bon les pâtes à l'italienne.
Auchan, avec plaisir. 1,39€ cagnotte déduite, les deux paquets de 500 grammes de linguine Auchan Tavola in Italia. Prix payé en caisse, 1,98€, soit 1,98€ le kilo. Existant d'autres variétés, valables sur le moins cher dans vos magasins et drive Auchan participants et en livraison à domicile. Pour votre santé, bougez plus.
RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Bah écoutez, c'est parti, 6h08, c'est RMC, on est bien dimanche aujourd'hui. Oui, c'est bien ça, le 23 juillet. Eh bien écoutez, alors voilà, on est là, à la bonne place. Et je suis très heureux de vous retrouver. Bonjour à vous toutes et à vous tous. Ce dimanche matin, c'est avec les experts d'RMC. Tout à l'heure, l'automobile, Jean-Luc Moreau me rejoindra à partir de 8h sur RMC. 2 heures dédiées à l'auto avec l'essai de la semaine, la BMW hybride et rechargeable à 530E. Le bon plan auto, comment protéger sa voiture du sable et du sel. C'est la bonne période d'en parler, c'est vrai. Et puis en deuxième partie, on vous donnera plein de petites astuces pour bien préparer son itinéraire de vacances. Peut-être partez-vous la semaine prochaine à l'occasion du grand chassé croisé juilletiste-aoussien. Hein, donc c'est à la fin de la semaine prochaine. Eh bien, à cette occasion, on vous donnera quelques petits conseils avec, évidemment, l'incontournable Waze. On recevra le responsable de Waze France tout à l'heure. Et puis, tiens, à ce sujet, je vous rappelle que j'aurai le plaisir de vous accompagner durant 30 heures la semaine prochaine pour le nouveau Grand Rush, l'édition 2017. On sera là avec Thomas Chupin et on s'est engagé à rester à l'antenne pendant 30 heures, les amis. Voilà, on va voir ce que ça donne. Vous allez peut-être avoir des heures et des heures de trajet. Ben, nous, on s'engage sur 30 heures. Ça commencera vendredi prochain à partir de 14h, on sera ravis d'être avec vous sur RMC. Donc, l'automobile à partir de 8h, mais pour débuter, c'est notre vétérinaire Laetitia Barlerin qui est là. Bonjour Laetitia.
Oui, bonjour François, bonjour à tous. Alors, 30 heures quand même non-stop.
Oui, mais vous y participerez, vous n'allez pas passer à côté, attendez.
Il en faudra des barres énergétiques et du café. Hein.
Aïe. Bah écoutez, oui, on va essayer. On se donnera des petites claques avec Thomas Chupin de temps en temps pour se réveiller.
Je vous encouragerai du fond de mon lit.
Ah, oh, ça c'est vache quand même. Non, on vous encouragera en vous réveillant, en faisant sonner votre téléphone. Laetitia, on passe 2 heures ensemble. Les animaux, avec bien sûr vos questions. Dans un instant, nous aurons Sylvain qui nous attend d'ores et déjà. Tout à l'heure, notre quiz de la vie privée des animaux.
Eh oui.
On n'en dit pas plus ?
Non, on n'en dit pas plus.
Aïe. Bien sûr que non. Même pas le thème, les amis, pour vous dire
si,
que ça se
corse.
On va
parler des moustiques, parce que c'est quand même d'actualité.
Ah bah oui, les moustiques, évidemment. Voilà. Évidemment, la femelle pique-pique, etc. Enfin bref, on va voir ce que ça donne. Et puis en deuxième partie de notre rendez-vous animaux, Laetitia, alors on va s'intéresser à plein de choses.
Oui.
Déjà, Rintintin.
Oui, bah, tout le monde connaît bien sûr le chien, le berger allemand, Rintintin.
Bien sûr.
Et la série télévisée est à succès, bien entendu. Mais savez-vous que Rintintin a existé ?
Vraiment ?
Oui, et qu'il est né en France.
Il est né en France, Rintintin.
Et voilà. Et nous aurons un historien avec nous, Jean-Michel Derex, qui va nous raconter l'histoire de Rintintin. Et vous allez voir, c'est passionnant.
Des moutons comme tondeuses de pelouse dans les villes.
Écoutez, je ne sais pas si vous
avez... Ça va plaire à Patrick Mignolan.
Ah oui, bah, je ne sais pas si vous avez vu, en passant sur le périphérique parisien, dans le nord de Paris,
ouais.
À un moment, vous voyez des moutons noirs en train de...
De brouter.
De brouter, voilà.
Tiens, c'est génial,
sur une pelouse
ça.
Près de... Eh bien, voilà, c'est ce qu'on appelle les éco-pâturage et il y a une start-up française qui propose la location de moutons en éco-pâturage aux communes mais aussi aux entreprises.
C'est génial ça.
C'est
une
génial.
Entreprise va dans un magasin, dit voilà, je voudrais louer quelques moutons, s'il vous plaît.
Alors voilà, il loue les
Alors,
moutons,
vous voulez quoi ?
Mais il loue les bergers avec.
D'accord, ah oui.
Bon. Je dis pas les bergères, quoique.
Ah, pourquoi pas, attendez. Quoi que... Surtout s'il pleut.
Oh, non.
En plus, c'est la.
Ça tombe à plat, là, c'est marrant.
Merci, Laetitia. Qui va soigner les oiseaux sauvages dans les Hauts-de-France, Laetitia ?
Eh oui, vous savez que le seul centre de soins des animaux sauvages de la région va fermer suite au, en plus à une autre fermeture, celle de la clinique des bébés phoques en Baie-de-Somme. Donc, quel est l'avenir des centres de soins D'accord. en France, parce que c'est, ils sont quand même indispensables. C'est là où on amène les animaux sauvages qui sont blessés. Donc on en parlera avec un vétérinaire qui exerce dans les Hauts-de-France.
Et puis on découvrira la web-série documentaire Au cœur des refuges.
Et oui, c'est une web-série, c'est la saison 1 qui vient de se terminer.
Ah ouais.
C'est une série de télé-réalité, on va dire, hein, puisque là, c'est une caméra qui va au cœur justement des refuges et filme le quotidien des bénévoles, mais aussi des chiens à l'adoption et des chats à l'adoption.
Voilà, on découvrira ça tout à l'heure avec son réalisateur. Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts en ce dimanche matin avec les animaux et Laetitia. N'hésitez pas à joindre notre vétérinaire 3216. animaux@rmc.fr le mail, et puis via l'appli RMC Direct Studio. Vous êtes connecté sur Direct Studio là, Tia?
J'y vais.
Vous y allez?
J'y vais.
Vous savez qu'il y a des codes et tout ça, vous les avez? Ouais. Et Laetitia, les codes, c'est toujours embêtant pour son ordinateur. Si elle pouvait avoir en fait un ordinateur sans code, ça franchement, je pense qu'elle signerait.
Je pense que je suis comme un petit peu 99,9% de la Exactement. Population française.
Bienvenue à vous toutes et à vous tous. C'est parti pour ce week-end des experts. Bon dimanche et merci d'être là. Et on salue tous ceux qui travaillent ce dimanche matin qui sont là. J'espère que tout va bien pour vous. Et on accueille Sylvain pour débuter. Bonjour Sylvain.
Bonjour François. Bonjour Laetitia.
Bonjour Monsieur Sylvain.
Alors vous allez nous parler de vos chiens.
Tout à fait.
Alors, c'est une race qui, franchement, je n'en ai jamais vu en consultation, ces chiens-là.
D'accord. Alors, ce sont des torniaques.
Voilà.
Et des quoi? Alors, des torniaques?
C'est des bergers.
Des torniaques, ouais. Ça s'écrit T-O-R-N-J-A-K. Ce sont des chiens de Croatie et de Bosnie-Herzégovine, très précisément.
Alors, d'après ce que je sais, ce sont des chiens qui ressemblent un petit peu aux montagnes des Pyrénées, race française, hein,
oui.
Mais plutôt, alors, ils sont largement blancs, ils sont aussi grands, et ils ont des taches marron ou noir, c'est ça?
Marron ou noir, absolument,
voilà.
Absolument. C'est, en taille, c'est, je dirais, un peu plus proche du bouvier bernois que du montagne des Pyrénées.
D'accord.
Mais c'est ça. Et c'est des amours de chiens.
C'est vrai?
C'est des amours de chiens, c'est avec la famille, c'est excellent, c'est excellent gardien, adorable avec la famille.
Ils protègent les enfants.
À l'éducation, ouais, c'est des amours de boules de poils.
Et ils sont faciles à éduquer?
Oui.
Bon.
Oui, franchement, très très facile à éduquer, très réceptif. Moi, j'ai un mâle et une femelle qui sortent de deux élevages différents. Il y a très très peu, extrêmement peu d'élevages en France.
Mais oui. Il doit y en avoir quoi, moins de 5?
Ouais, je crois qu'il y en a 3. Moi, j'en ai recensé 3 et je suis tombé sur cette race de chien complètement par hasard.
Oui.
Le premier que j'ai eu. Et coup de cœur absolu.
Il pèse combien?
C'est des chiens qui, le mâle qui est adulte et qui a fini sa croissance, pèse 45 kilos.
Ah oui.
Et ça peut aller entre 45 jusqu'à 50 kilos, on va dire. Mmh. Donc ça commence à faire de beaux bébés.
Alors je sais que dans leur pays d'origine, ce sont des chiens de berger, enfin ils gardent les troupeaux de moutons, et ils gardent, et puis ce sont des gardiens tout simplement.
Oui, c'est ça, absolument.
Voilà. Alors, vous avez une question concernant vos deux chiens.
Oui, quelle est votre question, Sylvain?
Alors, voilà. Donc, le mâle va avoir 3 ans et la petite femelle que je viens d'acquérir vient d'avoir 9 mois.
Oui.
Et bien sûr, elle va avoir ses premières chaleurs.
Alors, oui, sauf si elle les a déjà eues.
Alors, c'est un peu plus tardif c'est des chiens.
Ah, c'est des chiens qui sont plus tardifs en maturité sexuelle.
Voilà. Je ne souhaiterais pas une stérilisation définitive ni de l'un ni de l'autre. Hein, alors pas pour pouvoir faire un élevage, hein, mais éventuellement avoir une portée puisqu'ils sont inscrits au LOF.
Dans
2 ou 3 ans, quoi.
Oui, parce qu'elle est trop jeune là.
Voilà, elle est trop jeune. Je souhaite une portée éventuellement dans quelques temps puisque. Ils ne sortent pas du même élevage, donc il n'y a pas de consanguinité, donc ça pourrait être intéressant, mais pas tout de suite, pas avant 2 ou 3 ans.
D'accord.
Donc je ne veux pas faire stériliser la petite chienne, ni le mâle, la Hiro. Alors, j'ai un petit dilemme, parce que un de mes vétérinaires qui suit le mâle n'est pas trop d'accord, et celui qui suit la femelle m'incite à ça. Ça serait une stérilisation du mâle, provisoire, en fait, par un implant sous-cutané.
Oui. C'est ce que j'allais vous proposer. Moi, je suis plus du côté de, je sais plus. C'est bien parce que vous avez des chiens qui ont chacun leur vétérinaire.
Ouais,
quel luxe.
Ça, c'est le grand luxe.
C'est un grand luxe. C'est bien comme ça. Vous avez deux versions.
Ouais.
Alors maintenant,
ouais, ouais. Exactement. Mais même pour tous. Et voilà. Il y a des sons de cloche différents à prendre des deux côtés. Moi, ça me va très bien comme ça.
Écoutez, si vous voulez faire reproduire votre couple de chiens, mais qu'il faut attendre, bien entendu qu'il faut cet implant, c'est vraiment la solution pour vous. Alors, c'est un implant qui, c'est comme une puce électronique. C'est un implant qui a la taille d'un grain de riz, un peu plus grand même, très fin, que l'on met sous la peau et qui contient une hormone qui est la d'estrogène qui coupe, si vous voulez, un axe hormonal qui fait que ça stimule les glandes, c'est-à-dire les testicules. Et quand on met cet implant, y a une stérilisation qui est temporaire et qui est réversible. C'est ce qu'on appelle une stérilisation chimique. Ça veut dire que il ne sécrète plus de testostérone, il ne produit plus de spermatozoïdes, donc d'abord il est plus intéressé par la femelle et puis il ne peut pas reproduire pendant un laps de temps qui est de 6 mois à 1 an. Donc ça vous laisse le temps justement de laisser grandir la femelle, qu'elle se développe bien et qu'elle soit en âge d'avoir des petits. Mmh. Alors je sais pas pourquoi le deuxième vétérinaire ne vous déconseille cet implant, parce que franchement il est beaucoup utilisé par les éleveurs, parce que on n'a pas eu de stérilité après cet implant, pas encore. En tout cas on a quand même un recul de quelques années maintenant, on a vraiment un retour à la normale. Faut savoir aussi qu'il se dégrade d'un point de vue bio, c'est-à-dire que vous n'avez pas à l'enlever, l'implant, au bout de 6 mois, 1 an. D'accord. Il se dégrade lui-même. Il n'y a pas d'effet secondaire. Alors, faut faire attention juste les premières semaines, parce que on a un effet inverse, c'est-à-dire que l'implant excite le chien. Donc il y a une montée comme ça d'hormones juste après
et après ça redescend.
Après ça redescend.
C'est voilà. Une montagne russe hormonale.
Voilà, on a une petite excitation, voilà, ouais. Les deux premières semaines, faut faire attention.
Oula.
Et puis surtout, faut savoir qu'il y a une infertilité qui est garantie au bout de 2 mois. C'est-à-dire que les 2 premiers mois, faut faire quand même attention qu'il n'aille pas voir la femelle, enfin
d'accord.
Qu'elle ne
d'accord.
soit pas en chaleur. Faut laisser si dans les 2 mois après l'implantation,
il y a eu un rapprochement, on va dire.
Voilà, il y a des chaleurs, faut quand même les séparer, on sait jamais, il peut encore être un peu fertile. Voilà, ne vous inquiétez pas là-dessus et faites-le, c'est encore le mieux, parce que quand elle aura ses chaleurs, ça
va
sera
être un cauchemar.
L'enfer.
Sylvain, merci beaucoup.
Merci Sylvain.
Et très bon dimanche. On revient dans un instant sur RMC, le quiz de la vie privée des animaux avec les moustiques, et on poursuit avec vos questions. Allez-y, n'hésitez pas à joindre Laetitia ce matin. Bien évidemment, nous sommes en direct. Vous pouvez nous appeler 3216 animaux@rmc.fr ou nous laisser un petit message via Direct Studio. N'hésitez pas, c'est le cas de Kevin qui nous fait un bonjour tout le monde. Kevin, merci de nous envoyer ce petit coucou. À tout de suite.
RMC 6h-8h. Vos animaux. RMC, 6h-8h, vos animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 6h21, le retour du week-end des experts, les animaux. Vos questions dans un instant au 3216, Laetitia auparavant, notre quiz de la vie privée des animaux. Et on va parler
d'animaux de saison, comme
oui.
On dit. Hein. C'est les petits moustiques qui vous rendent la vie beaucoup plus pétillante, on va dire,
c'est
n'est-ce
vrai,
pas
c'est vrai.
Beaucoup plus boutonneuse aussi.
Complètement. Je pense que le rapport enquiquinement taille du moustique, on fait pas mieux.
On fait pas mieux. Et vous savez, vous avez remarqué en tout cas que quand il y a plusieurs personnes dans une pièce, c'est marrant, mais les moustiques, ils préfèrent piquer certaines personnes et pas d'autres. Et il y a souvent des gens qui disent « Ah, oh, moi j'ai une peau à moustique, voilà, mon compagnon, ma compagne se fait pas piquer, et moi je me fais piquer. Pourquoi ?» Alors, il y a eu beaucoup d'études dessus.
Ah.
Alors, il semblerait quand même que les moustiques aient des préférences. Alors, par exemple, ils aiment bien les peaux fines. Bon, ça se...
Normal.
Ça se comprend. Bon. Mais ils ont aussi d'autres préférences qui sont un peu plus insolites.
Donc, ils aiment les peaux fines, ça on le sait, c'est réglé.
Voilà. Mais ils ont aussi d'autres préférences. Et j'ai 3 propositions.
C'est-à-dire qu'un éléphant se fait rarement piquer par un moustique.
Oui, parce qu'il a quand même la peau très épaisse.
Mais voilà, il faut que les moustiques viennent avec un marteau piqueur.
Non, mais les moustiques aiment beaucoup l'homme. Parce que justement, il n'y a pas de poils. Et savoir que...
Certains, oui.
D'ailleurs, c'est vrai, plus la peau est... moins la peau est poilue, plus les moustiques piquent.
Et oui, parce que les poils, pour eux, c'est des obstacles.
Et voilà, c'est pour ça que, mesdames, nous qui avons la peau peu poilue sur les jambes, par exemple, nous sommes plus piqués aux jambes que les hommes, qui sont plus poilus.
Vous n'avez pas de poils sur les jambes, en général?
Non.
En général, oui.
En général, oui.
Après, parfois, il y a des...
C'est pour ça que voilà, il nous pique plus. Alors, j'ai trois propositions.
Non, mais c'est vrai ce que dit Aurélie, notre productrice. Vous avez peut-être aussi la peau plus fine que les garçons. Je ne sais pas, mais non.
Oui, et les femmes ont la peau plus fine aussi.
C'est vrai. Plus douce aussi.
Voilà. Donc,
évidemment.
Voilà.
Alors.
Bon, alors. J'ai trois propositions pour les préférences des moustiques concernant les personnes.
On y va.
Alors, puisque c'est les femelles. Mais quand même, les moustiques préfèrent les buveurs de bière.
Ah, les buveurs de bière.
Le groupe sanguin O.
O.
Ou les amateurs de glace.
Les amateurs de glace?
Oui, de glace.
La glace qu'on mange?
Oui, la crème glacée.
La crème glacée, d'accord. Tiens. Ça alors, écoutez, je n'ai aucune idée, Laetitia, je ne sais pas. Donc franchement, je vous conjure, aidez-moi. Help.
Alors,
Mayday.
Si en plus vous êtes buveur de bière, vous mangez des glaces et vous êtes du groupe zéro.
Alors là,
c'est
mal barré.
C'est mal barré, oui.
Donc n'hésitez pas à m'aider via donc soit direct studio, vous me donnez votre réponse, soit par mail animo@rmc.fr et gardez le 3216 pour toutes vos questions, bien sûr. Ça nous permettra de retrouver vos questions plus rapidement. Laetitia, nous allons retrouver peut-être un petit mail et c'est la question de Stéphanie. Combien de temps, Laetitia, vit un lapin en captivité? Et je trouve que le lapin en ce moment est une espèce de code. Tout le monde veut des lapins.
Et oui, mais c'est le nouvel animal de compagnie.
C'est vrai.
Voilà, avec le chat, on préfère des animaux de compagnie que l'on puisse laisser à la maison.
Alors, donc voilà combien de temps vient un lapin en captivité, c'est ce que nous demande Stéphanie. Je voudrais en adopter un pour ma fille, justement, de 4 ans, qui en rêve. Mais j'ai peur qu'elle souffre un jour où elle le perdra. Ah, ça c'est
ah,
sûr
bah,
que...
Ah oui, mais ça... Alors,
un smartphone, quand il a plus de batterie, vous le rechargez, mais le lapin, c'est compliqué. Hein.
Oui, mais... Bon, d'abord, le lapin vit 8 ans en moyenne, hein, déjà.
D'accord.
Après, on a des lapins qui vivent jusqu'à 10 ans, 12 ans même. Hein.
Ah,
moi,
oui.
J'ai vu un lapin vivre jusqu'à 12 ans.
Tiens.
Donc, ça nous fait...
Ouais,
elle aura 14 ans, elle sera ado. Alors, d'abord, faut savoir que avoir un animal de compagnie, ça permet justement à apprendre à l'enfant le cycle de la vie. Qu'il y a, voilà, quand elle voit des naissances, par exemple, bah, elle apprend comment se font les naissances. Ça, elle voit la vie, elle voit la maladie aussi. Elle voit que l'animal peut être malade et elle assiste à la mort aussi. Et c'est bien aussi pour le développement psychologique aussi de l'enfant. Et il faut savoir que les enfants gèrent très bien la mort. Alors, il faut faire quand même une sorte de cérémonie.
Donc, ça sera plus un enfant, parce que si on imagine
qu'elle aura 12 ans.
Elle aura 12 ans,
voilà.
Donc à 12 ans, on peut aussi
décéder avant, hein, bon, s'il est malade, mais
oui.
Voilà. Mais faut savoir que, voilà, on a toujours peur d'annoncer la mort à un enfant, alors que l'enfant gère très bien, justement, le deuil. Et il faut faire toute une cérémonie. Alors, vous faites toute une cérémonie aussi... pour enterrer le lapin ou pour enterrer un autre animal.
Mmh.
Et c'est vrai que les enfants gèrent très bien. Il ne faut jamais mentir à l'enfant et jamais taire la mort de son animal. Hein. Ça, c'est le pire pour l'enfant.
D'accord. Hein. Donc, il faut affronter la mort en face.
Exactement.
Lui expliquer ce qui s'est passé, qu'il est parti dans le ciel, etc.
Voilà, exactement. Il faut trouver les mots.
Et l'enterrer.
Et l'enfant le gère très bien.
D'accord.
Et justement, comme je vous dis, ça fait partie de son éducation d'apprendre ce cycle de la vie.
D'accord.
Et l'animal lui permet justement d'apprendre ça. Alors, en plus, là, le lapin, c'est vrai pour un enfant de 4 ans, c'est bien parce que c'est un animal qui est doux de caractère et qui est doux à caresser.
C'est vrai.
Donc,
il est doux partout.
Voilà. Mais faites attention, Stéphanie. Dites bien à l'enfant de ne jamais porter le lapin. Parce que nous, vétérinaires, on a après des lapins qui ont une patte cassée parce qu'ils sont tombés des bras de l'enfant.
D'accord.
Parce que le lapin, à un moment, il se débat parce qu'il en a marre d'être dans les bras, par exemple. Et l'enfant prend peur, ouvre les bras et le lapin tombe. Donc, voilà.
Ça, c'est embêtant.
Et bien sûr, les enfants sont responsables du lapin, pas parce que c'est le lapin de l'enfant que voilà. Donc ça, c'est important.
Laetitia, bientôt 6h30, on revient après la météo et les infos, la réponse à notre quiz de la vie privée des animaux. Et voilà, il semblerait que si par exemple on est buveur de bière, si on a un rhésus haut, ou bien, c'était quoi la troisième proposition? Si on mange des crèmes glacées, on attire plus les moustiques. Ça, c'est dingue. Si vous avez une petite idée, n'hésitez pas sur Direct Studio, ça commence un peu à frissonner. On revient dans un instant, à tout de suite.
Rejoignez les experts animaux sur leur page Facebook, Vos Animaux sur RMC. RMC, 6h-8h, Vos Animaux, François Sorel, Laetitia Barlerin.
Le retour du week-end des experts, les animaux, 6h32. Un bon dimanche. Notez que tout à l'heure, entre 7h et 8h dans ce rendez-vous animaux, eh bien, on évoquera entre autres Rin-Tin-Tin. Vous savez que le chien Rin-Tin-Tin a vraiment existé? Alors, on l'a pas connu, Laetitia, parce qu'il
est né,
trop jeune.
Il est né en 1918.
Ah oui, vous vous rendez compte.
En France.
En France, en plus.
Mais il a fait une carrière aux États-Unis, on le verra. Ouais.
C'est rigolo parce que finalement, l'association de deux chiens qu'on connaît, c'est Rin-Tin-Tin et Milou, en fait. C'est ça, hein? Non? Ça n'a rien à voir. Rin-Tin-Tin, non, c'est pas grave. C'est dimanche matin, on se réveille tranquillement.
Rin-Tin-Tin.
Je m'excuse auprès de tous ceux qui sont un peu réveillés et qui se disent, mon Dieu. Alors, nous allons retrouver notre quiz de la vie privée des animaux dans un instant avec la réponse concernant ces moustiques qui piqueraient plus les gens qui... soit en manger des crèmes glacées, soit en bu de la bière, soit ont un rhésus O.
Un groupe sanguin O. Ouais.
Voilà, un groupe sanguin O. C'est quoi le groupe sanguin universel? C'est O positif ou O négatif? Non, un truc comme ça.
En donneur universel.
En donneur
c'est
universel.
O.
C'est O. O tout
o
simplement.
Plus ou moins.
O plus ou moins. Voilà. D'accord. Vous êtes O plus ou moins ou pas, la Tchatcha? Non.
O moins.
Ah, d'accord.
Oui, oui.
Ça, c'est bien.
J'ai
ça.
J'ai partie des 7% des personnes en France qui ont du au moins.
Voilà, donc beaucoup, hein. Tous les vampires qui nous écoutent, vous pouvez y aller sans problème, Laetitia.
Voilà, je suis donneuse.
Et comestible, compatible.
Universelle, mais il ne faut pas le dire aux moustiques.
Bon, de toute façon, ce n'est pas grave, on n'est pas à la radio. Si on était à la radio, ça serait embêtant, mais là, ce n'est pas le cas.
Non, mais les moustiques nous écoutent.
Laetitia, on accueille maintenant Marie-Rose qui est là. Bonjour Marie-Rose.
Bonjour Laetitia, bonjour François, ravi de vous
bonjour.
Appeler.
Mais quel joli prénom Marie-Rose.
Bon, je ne sais pas trop, mais bon.
Non, c'est très joli. C'est très joli. Vous nous appelez d'où?
De Solliès-Pont entre Hyères et Toulon.
Parfait.
D'accord, parfait.
Bon, vous allez avoir du beau temps aujourd'hui Marie-Rose.
Oui.
Si vous voulez un peu de grisaille et un peu de fraîcheur, on en a ici à Paris, vous inquiétez pas. Hein. Tout va bien.
Ah d'accord.
Voilà. Alors Marie-Rose, qu'est-ce qui vous arrive?
Eh bien, j'ai une amie qui a récupéré un bébé hibou.
Un bébé hibou?
Un bébé hibou, oui, oui, oui.
Oui.
Sur le quai de la gare.
Ah bon? Et tombé du lit.
Et elle l'a recueilli, elle l'a nourri, donc elle lui ouvrait le bec au départ pour le nourrir, et maintenant il se nourrit tout seul.
Elle le nourrit de quoi?
De la viande,
oui.
Du foie, des steaks hachés.
Des hamburgers.
j'espère qu'elle rajoute un complément minéral et vitaminé. Alors, vous savez qu'elle elle veut quand même le donner à un centre de soins.
Alors, c'est ça, justement.
Et oui, parce
elle ne sait pas vers qui se tourner.
Alors... c'est la législation. Vous ne pouvez pas garder un animal sauvage en captivité chez vous. D'autant plus que vous n'êtes pas spécialiste non plus des hiboux et autres oiseaux sauvages. Il faut confier l'animal à un centre de soins de la faune sauvage. Il y en a plusieurs en France, même si certains sont menacés. On va en parler dans la deuxième heure. Alors, je ne sais pas dans votre région quel est le centre de soins le plus proche. En tout cas, il faut amener cet oiseau dans ce centre de soins parce que vous avez des spécialistes qui ont tout un protocole pour nourrir les bébés oiseaux, pour pouvoir après.
Ils connaissent bien l'espèce, etc. Qu'ils leur donnent ce qu'il faut.
Voilà. Après, ils vont ils ont un protocole aussi pour qu'ils développent leur instinct de chasse, pour après pouvoir les remettre dans la nature. Parce que le but, c'est quand même de les remettre dans la nature et qu'ils soient pas dépendants de l'homme. Et ils évitent aussi une imprégnation trop forte de l'homme sur ce rapace, pour éviter que le rapace soit dépendant de l'homme ou qu'il n'ait pas peur de l'homme. Pour éviter des problèmes. Donc c'est pour ça qu'il faut absolument. Alors pour connaître le centre de soins, c'est simple, vous allez appeler votre vétérinaire ou vous appelez la mairie, mais le mieux encore c'est d'appeler le vétérinaire qui lui a une liste de centres de soins qui sont agréés par le ministère, qui acceptent les oiseaux. Et bien c'est très important d'appeler le centre de soins avant en disant je vous amène un oiseau. Vous savez pourquoi ? Parce que si elle est arrêtée par un agent de l'ordre qui lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec un oiseau dans votre voiture ?»
Est-ce qu'il a sa ceinture de sécurité ?
Voilà.
Ah ouais, parce qu'il a même pris le train, l'oiseau.
Interdit.
Oui, puisqu'il a été trouvé sur le quai d'une gare, donc
J'imagine. Mais la loi fait que si on trouve un animal sauvage dans votre voiture, vous avez un PV, parce que c'est interdit.
Aïe.
Je vais dans le centre de soins X, je les ai appelés et que le policier appelle le centre en disant c'est vrai, vous avez eu Madame Machin qui vous appelle qui vous a appelé pour un oiseau qu'elle vous amène et qui le centre dit bien sûr oui. Voilà, c'est important, mais c'est des petits détails, mais c'est très important.
Et puis
surtout les appeler pour savoir s'ils sont ouverts et s'ils ont de la place pour cet oiseau, parce que c'est voilà.
Et il y en aurait un dans le Var, vous pensez ?
Je sais pas du tout.
On va regarder Marie-Rose et on va vous dire ça en antenne.
Sinon, il faut demander à un vétérinaire, parce que les vétérinaires ont tous les coordonnées des centres de soins, justement.
Voilà, et Aurélie, notre productrice, est en train déjà de chercher
votre... m'envoyez la réponse.
Mais bien sûr, Marie-Rose, évidemment.
Voilà, bien sûr.
On est mieux que le 118-218, vous savez. Et ça vous coûtera moins cher encore, en plus.
Voilà.
Merci Marie-Rose, on vous embrasse.
Merci beaucoup. Également, bon
dimanche.
Bonne journée, excellente journée.
Et profitez bien à Solliès-Pont. Oui. Très joli coin, Solliès-Pont. Il fait toujours beau, c'est le Var. Enfin, tout va bien. Laetitia, 6h38. Avant de retrouver un autre auditeur ou une autre auditrice, il est temps de retrouver notre quiz de la vie privée des animaux. Avec cette histoire de moustiques un peu abracadabrante quand même, Laetitia, les moustiques seraient attirés
par certaines personnes.
Certaines personnes qui auraient consommé une substance, enfin quelque chose.
J'adore quoi. On se demande quelle substance.
Mais quelle substance ?
Est-ce qu'ils sont drogués, les moustiques ? Non, c'est pas ça, c'est pas cette substance-là. D'ailleurs, on n'a pas encore testé.
Non.
Savoir si, en ayant pris des substances illicites, les moustiques sont attirés ou repoussés. Alors, quoique, vous savez que les moustiques n'aiment pas les gens qui font beaucoup de gestes.
Oui.
Donc,
par exemple,
vous dansez.
Le moustique n'aime pas. Et non, parce qu'il ne sait pas où se poser.
Ils aiment les gens qui sont posés. Donc, c'est pour ça qu'ils piquent quand on dort.
Bien sûr. C'est ça.
Si vous ne voulez pas être piqué par les moustiques, dansez.
D'accord.
Voilà. Alors, sinon, les moustiques piquent certaines personnes plus que d'autres.
D'accord.
Et il semblerait qu'ils aient des préférences, comme les buveurs de bière.
Les buveurs de bière.
Les personnes du groupe sanguin O.
Oh.
Ou les amateurs de glace.
Alors, ça se déchaîne, Laetitia, sur Direct Studio. La bière est en force. C'est ce que nous dit, par exemple, Nathalie. C'est ce que nous dit aussi William, Pascal, Yo-Yo. Enfin bref, pas mal de monde. Sur le mail, nous avons Francis qui pense aussi à la bière. Nous avons notre auditrice fidèle Tamara qui pense au groupe O aussi. Et Pascal nous dit la réponse 1 aussi, les buveurs de bière. Donc franchement, la bière arrive en force, les amis. Est-ce que ça marche aussi avec la bière sans alcool ? C'est la question qu'on pourrait poser. Parce que vous savez, après, la fête est plus folle, etc.
Enfin, une bière sans alcool, c'est pas une bière hein, pour moi, mais bon.
Bah oui.
Hein ?
Moi, je dirais la bière, je sais pas, peut-être que la levure attire les moustiques, ou peut-être l'alcool qu'il y a dans la bière, tout simplement. Parce que la crème glacée, bof, c'est sucré, mais Pourquoi l'exemple de la crème glacée? Et puis le Régus O, pourquoi pas? Oui, peut-être que le sang a une odeur, une saveur un peu particulière. Mais bon, je veux dire la levure, la bière donc.
La bière, la levure.
Enfin, la levure, la bière, je dirais. Et c'est mon dernier mot, Jean-Pierre.
Et c'est votre dernier mot.
Oui.
Et vous avez
raison. Une drôle de voix. Vous avez une drôle de voix pour une Jean-Pierre.
Ah ouais, quand même. Mais attendez, il y a une deuxième réponse.
C'est pas vrai.
Si. Oh bah, je voulais que vous en gagniez aujourd'hui.
Ah, ouais, c'est tellement mignon, Malachi.
Il y avait deux réponses bonnes sur trois dans ça.
Deux réponses bonnes sur trois?
Oui.
Vous imaginez, j'aurais dit une bêtise.
Alors, est-ce que c'est le groupe sanguin O ou l'amateur de glace? De crème glacée.
Ah oui, vous me remettez la pression en fait. Moi je pensais tranquillement, là, j'étais en train de ranger mes petites affaires et tout ça, en dire ok, bon ça va, le quiz c'est fait. Je sais pas moi, entre le Résus et la crème glacée, le sucre ou le Résus? Enfin le sucre.
Non, c'est pas le Résus, hein, c'est le groupe.
Le groupe, pardon. Je dirais le groupe parce que la crème glacée, je vois pas trop. Vous m'auriez donné un autre exemple, je pense, si ça avait été le sucre. Moi, je dirais, voilà, le groupe. O. O.
O. Alors, o. C'est... O. Vous avez beaucoup de chance aujourd'hui.
Oh non,
c'est bon. Oh là là. Eh oui.
Non, mais franchement... Il faut savoir. Non, mais vous m'auriez dit, je sais pas moi, par exemple, des bonbons ou des trucs comme ça. Je pense que là... Je serais tombé dans le piège.
C'était un piège parce que on pense souvent que le sang sucré, enfin attire le moustique, ce qui n'a jamais été démontré. En revanche, il a été démontré que les buveurs de bière attiraient plus les moustiques que les non buveurs de bière. Alors c'est pas une histoire de levure, c'est pas une histoire d'alcool.
D'accord.
C'est une histoire de sueur et de d'odeur. Parce qu'en fin de compte,
et oui,
les
quand
moustiques,
on boit de la bière après,
ils aiment bien.
Voilà.
Il y a une odeur. Alors, c'est pas une odeur forcément que l'on sent.
D'accord. Mais
c'est
que eux détectent.
Et c'est dû à des bactéries qu'il y a sur la peau qui dégagent des substances olfactives qui attirent le moustique. Donc, il semblerait que en buvant de la bière, peut-être qu'on sue plus, on a une odeur particulière qui attire les moustiques. Et il semblerait aussi que les personnes du groupe sanguin O attirent plus les moustiques que les autres.
Ah ouais. Ça alors.
C'est incroyable. Et il semblerait aussi que les
femmes
enceintes.
Donc cet été, ça va être la fiesta
aussi
pour vous, Laetitia.
Oui, ça va être la voilà. Comme hein? Voilà. Mais comme je dis, comme je suis O négatif, je suis donneuse universelle, donc pour tout le monde et les moustiques.
Et ben voilà, c'est ça. Bon, ben c'était tout mignon.
Voilà.
Ce petit quiz.
Les femmes enceintes aussi attirent pas mal. Voilà, on a comme ça. Alors il n'y a pas de peau à moustique parce que les moustiques pique toutes les peaux, mais d'accord, c'est vrai que à choisir dans une pièce.
Donc un homme qui n'est pas de groupe O, qui ne boit pas de bière déjà et qui est un peu poilu, on peut dire qu'il est un peu tranquille quoi.
Il est plus tranquille qu'une femme qui est de groupe sanguin O, qui boit.
Donc
et
messieurs,
qui, voilà,
si vous ne buvez pas de bière, si vous êtes de groupe autre que O, choisissez une femme qui a la peau douce, qui n'a pas de poils, qui boit un petit peu de bière, pas beaucoup parce qu'après c'est un peu désagréable, hein, et qui serait de groupe O.
Voilà
comme Laetitia.
Oui, pas pour la bière, mais
jamais.
Pour le groupe, oui.
Petite bière de temps en temps, la tchatcha quand
jamais.
Même, non, mais jamais.
Jamais.
D'accord. Bon, on revient dans un instant, les amis, avec Pascal qui sera là, qui va nous parler de son chat et de la volonté qu'il a aussi d'adopter un chaton. Il aimerait savoir si ce nouvel arrivant va bien s'insérer dans la famille. Le 3216, animaux@rmc.fr ou via l'appli RMC Direct Studio sur smartphone. N'hésitez pas à nous laisser un petit message. À tout de suite.
RMC 6h-8h, vos animaux. RMC 6h-8h, vos animaux. François Sorel, Laetitia Barlerin.
Il est 6h46. C'est le retour de ce week-end des experts animaux.
Je viens de dire quand même à François Sorel que les moustiques étaient attirés par certaines odeurs, dont les odeurs de pieds.
Voilà, c'est ça. Pendant la pub, elle me donnait le côté caché, en fait, du quiz de la vie privée des animaux. Elle me disait, les moustiques adorent les odeurs de pieds. Et moi, j'étais un peu bouche bée, quand même.
Mais c'est marrant parce que il y a des scientifiques qui ont testé les odeurs de pieds et les odeurs de fromage. Parce qu'ils se disent odeurs de pieds, les odeurs de fromage.
Même combat, quoi.
C'est même combat. Mais là, non, les moustiques
ne se font pas avoir.
Ils ont le nez pour distinguer le pied du fromage.
Ouais. Puis bon, piquer un fromage pour un moustique, c'est quand même la loose. Hein. Au bout d'un moment, il est un peu déçu. Enfin bref, bon, écoutez les amis, on se calme un peu. Merci en tout cas d'être avec nous. Si vous venez d'arriver, ne vous inquiétez pas, on n'est pas bourré, hein, tout va bien. C'est le week-end des experts, c'est les animaux. Et on passe un bon moment avec vous. Pascal est là. Bonjour Pascal.
Pascal. Bonjour Laetitia.
Bonjour Pascal.
Bonjour Pascal.
Je suis content, j'ai gagné au quiz. Je suis heureux.
Ah. Oh, il y avait deux chances sur trois.
Hein. J'avais raté le dernier pour l'histoire du crottin de.
Ah oui. Bah, vous savez, Laetitia passe énormément de temps à me concocter chaque semaine quiz quand même.
C'est vrai.
Hein. C'est vrai. Et moi, à chaque fois, je suis effrayé, quoi. J'ai peur parce que je me dis, oh là là, qu'est-ce qui va se passer, voilà. Et je vous assure que évidemment j'ai pas la réponse, hein. On joue vraiment le jeu.
Non, mais les réponses sont subtiles en plus, donc
oui.
ça attire.
Pascal, vous êtes dans les Alpes de Haute-Provence, c'est ça?
Oui, tout à fait. Alors, écoutez, je vous appelle pour... Enfin, en fait, j'ai trois questions à vous poser, donc je vais essayer d'être le plus rapide possible.
Oui, allez-y.
Première question, j'ai une chatte qui a maintenant 7 ans. C'était un de mes locataires qui l'a laissé en déménagement.
Oui.
Enfin bref, donc...
Oui, ça arrive, ça. C'est genre, je vous laisse la maison, l'appartement avec le chat.
Avec le chat, voilà. Donc,
je trouve ça désespérant, mais bon.
On s'est adoptés tous les deux. Et puis, ma mère, qui habite pas très loin, a une chatte sauvage, qui est venue faire trois petits.
Oui.
Voilà, elle se retrouve avec ses trois petits, qui sont pas tout à fait sevrés.
Oui.
Et, elle insiste pour que j'en prenne un.
Oui.
Parce que sinon, ça va être des chats qui vont nous être dans la rue. Et,
bien sûr,
et,
oui, oui. Vaut mieux, voilà. S'ils sont socialisés à l'homme, vaut mieux les faire adopter, hein, c'est sûr.
Voilà. Alors, la question est la suivante. Ma princesse, là, elle a 7 ans, c'est la patronne à la maison, c'est, dirige le truc.
J'imagine la question.
Et oui.
Vous avez peur de la cohabitation?
Et oui, la cohabitation. Et puis, est-ce qu'il faut prendre un mâle, une femelle? La mienne, c'est une chatte.
Oui.
Bon, elle est châtrée. Si je prends un mâle, de toute façon, je vais le faire aussi. Mais enfin, comment les
présenter?
Comment se les présenter?
Alors, et vous avez deux autres questions?
Il y a deux autres questions, oui.
Allez-y.
Très rapide. Alors, la deuxième question, vous voulez la deuxième question?
Ah oui, allez-y. Et même la troisième, alors, soyons fous.
La deuxième question, ici en Provence, j'avais des pipistrelles chaque année.
Oui, c'est des chauves-souris.
Des chauves-souris, voilà. Alors, elles venaient derrière les persiennes, elles venaient sur la terrasse, enfin, sous les piliers de la terrasse, etc. Cette année, je n'en ai pas vu une seule.
Ah.
Alors, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Alors, si vous avez une explication à me donner, parce qu'il y a des bestioles, enfin, il y a des insectes.
Il y a quand même des insectes, oui, parce que c'est ce qu'elles mangent, donc.
Voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Et puis, la dernière question, qui est une question un peu triste, c'est pourquoi est-ce que vous nous quittez en début de... à la reprise de la saison. Voilà.
Qu'est-ce qu'on fait? On fait la troisième déjà?
On fait la troisième, alors.
Bon, commençons par la troisième.
Donc, vous avez raison, oui, c'est vrai, l'émission se termine et ne reviendra pas en septembre. Mais nous serons là au mois d'août, quand même. Donc vous pourrez nous écouter tout le mois d'août. Voilà, donc c'est une décision de... C'est pas mon choix, c'est une décision d'RMC.
La direction d'RMC, voilà.
Voilà.
D'accord, ok.
Ensuite, concernant les pipistrelles.
Oui, allons-y.
Allons-y. Alors, écoutez, tout ce que je sais, c'est que c'est une espèce... protégée parce qu'elle est en voie de disparition.
Absolument, oui.
Donc, c'est pour ça qu'on incite beaucoup les personnes à faire en sorte que les pipistrelles se sentent bien chez elles, chez ces personnes, c'est-à-dire en mettant, par exemple, des nids à chauves-souris,
oui.
Voilà, pour les attirer. Et puis, en utilisant le moins possible de pesticides, parce que, bien sûr, elles se nourrissent d'insectes. Et s'il n'y a pas d'insectes, il n'y a plus de prédateurs. Et voilà. Alors, pourquoi elles diminuent? Faudrait presque demander. Vous savez, il y a des associations de protection animale qui s'occupent justement des chauves-souris, et demander pourquoi dans votre région elles disparaissent, parce qu'a priori elles disparaissent, puisque vous avez chaque année, elles aiment bien revenir chaque année au même endroit pour faire leur
endroit,
nid.
Ouais. Même endroit.
Elles sont assez fidèles à ça.
Pas une. Et je me lève à 4h tous les matins.
Ouais, non, mais c'est affolant.
Enfin, avant, je les voyais tourner. Je savais où elles avaient leur nid parce que je voyais des petites crottes, machin, etc. Et puis, là, cette année, mais rien.
Parce qu'elles sont assez fidèles. Bah, l'été, elles ont un nid pour reproduire. Elles sont assez fidèles à ce nid. Et l'hiver, elles vont dans un endroit pour dormir, hein, pour hiberner. Et là aussi, elles sont assez fidèles. Donc, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Je ne sais pas. Je n'en ai pas entendu parler dans votre région. Mais je vais me renseigner et je vais vous donner une réponse par écrit, du coup.
Hein. Ce serait très intéressant.
Voilà. Mais si d'autres auditeurs, pardon, ont observé la même chose, ils peuvent aussi nous contacter, parce que c'est quand même assez affolant, hein, de se dire que les chauves-souris disparaissent.
Pratiquement pas d'hirondelles non plus. Je dois le dire.
Oui. Les hirondelles aussi sont en voie de disparition, hein. Malheureusement.
C'est bizarre. Il y en a encore.
Mais bon,
les
hirondelles, elles migrent, hein, donc il y a tout le chemin jusqu'à l'Afrique. Et puis en Afrique, est-ce qu'elles trouvent ce qu'il faut? Voilà, c'est pas forcément dû à la France.
Là, c'est pas tellement le moment de la migration. Au contraire, elles migrent plutôt sur l'Europe que.
Oui. Ben, elles sont déjà à demeure. Hein. Ouais. Alors concernant votre chat, mâle ou femelle, le chaton, comme vous voulez, parce que de toute façon, à partir du moment où on aura stérilisé le chaton, ils vont bien s'entendre. Voilà. Enfin, c'est-à-dire que quand le chaton, la chatonne sera pubère,
la chatonne.
On dit la chatonne.
C'est tellement mignon.
C'est mignon. Il peut y avoir des tensions, bien entendu, entre les deux chats. Alors souvent, les vétérinaires conseillent de prendre le sexe opposé, de prendre le mâle,
d'accord,
si vous avez une femelle, parce qu'il semblerait que... Mais ça, les études ne l'ont jamais prouvé. Voilà. Donc prenez celui qui vous intéresse, celui qui vient vers vous, celui qui est plus sociable. Et ne vous inquiétez pas, ça va mal se passer au début, et après ça va très bien se passer.
Ah.
C'est-à-dire que votre chatte de 7 ans qui est chez elle et qui ne supporte pas, qui est un nouvel arrivant, va signifier au nouvel arrivant, c'est-à-dire au chaton, qu'elle est chez elle et va cracher, souffler, essayer de grogner aussi pour que le petit s'en aille. Et puis après, elle va l'accepter, ne vous inquiétez pas.
Tout va bien se passer.
Voilà, et il faut surtout pas intervenir, c'est comme ça qu'ils se parlent, et très vite elle va l'accepter comme nouvel arrivant.
Pascal, merci, on vous souhaite une bonne journée. Avant de retrouver la météo, les infos de 7h, on accueille Hans maintenant. Bonjour Hans.
Bonjour monsieur, bonjour madame.
Bonjour Hans, vous pouvez nous appeler Laetitia et François, hein, ça va, on est entre nous.
Voilà, on est entre nous là, Hans. Alors
Hans, bonjour François. Qu'est-ce qui vous arrive alors? Racontez-nous.
Je vous appelle concernant un petit problème avec ma chienne, parce qu'en fait, il y a quelques temps, vu que je vis à la campagne en Normandie,
oui,
j'ai eu récemment l'invitation des puces et des tiques à la maison.
Oui.
Donc j'ai traité ma chienne, je suis allé au véto, et ils m'ont passé un gros médicament carré, vert.
Oui.
Pour traiter ma chienne, tout simplement. Donc, c'est un médicament que je lui mets dans sa gamelle et que normalement, ça dure un mois ou trois mois.
Oui.
Et depuis cette histoire, elle a plus de puce, plus de tique, mais elle perd, quand je vous dis, énormément de poils. C'est je la caresse, j'ai une poignée de poils dans la main, quoi.
Ah bon?
Et
vous pensez que c'est dû à ce comprimé?
Suite à la prise de ce comprimé, c'est juste après qu'elle a commencé à perdre tous ses poils, en fait.
Quand il y a des, enfin, je sais pas du tout ce qu'il y a eu comme changement de température de chez vous, enfin de climat. Est-ce qu'il y a eu des fortes chaleurs et après très froid ou?
Oui. Il y a eu une baisse de température, mais il a fait 30 degrés, après il fait 20 degrés, mais.
Voilà, parce que les yo-yo en température. Alors ça peut concernant le comprimé, j'ai lu. Parce que moi, je l'ai jamais vu, parce que je vois beaucoup de chiens qui prennent ce comprimé, parce que c'est quand même assez nouveau et c'est très bien, parce que ça permet d'éviter les piqûres de puces et les morsures de tiques. Si vous lavez le chien, ça n'enlève pas le produit, par exemple par rapport aux pipettes ou aux sprays qu'on peut mettre. Voilà, c'est vraiment des produits qui sont très efficaces. D'ailleurs, je vois que en outre-mer, moi j'ai des confrères en Outre-mer qui me disent que depuis qu'ils ont ces produits, ils ont beaucoup moins de problèmes avec les tiques, parce qu'en Outre-mer, il y a les tiques, c'est un vrai problème, hein. Et puis elles transmettent vraiment beaucoup de maladies, beaucoup plus graves d'ailleurs qu'en France, qu'en métropole, pardon. Dans les effets indésirables, j'ai lu, hein, je ne dis pas que c'est votre le cas de votre chien, que ça pouvait donner une perte de poils, mais alors dans un cas sur 1 million, quoi. Enfin, je ne sais pas. C'est vraiment le cas hyper rarissime pour se comprimer. Mais ça a été observé. Et ça ne veut pas dire qu'il y a une cause entre les deux, parce que ça n'a jamais été prouvé que c'était le comprimé qui donnait ça. Mais par contre, ils ont observé dans les milliers de chiens qu'ils ont traités, quelques cas où il y a eu une perte de poils après. Donc peut-être que c'est dû peut-être au comprimé, ou peut-être pas. Moi, ce que j'observe aussi en ce moment, c'est que comme le climat fait un peu le yo-yo avec les températures, il y a un peu un dérèglement au niveau du cycle du poil chez les chiens et les chats. Parce que faut savoir que même les fortes chaleurs peuvent stimuler la pousse des poils.
D'accord.
Parce que le pelage protège de la chaleur. Et quand on a une forte chaleur et après des températures qui baissent comme on a eu ces derniers temps, et ben ça peut affoler le cycle du poil qui fait
que
il sait plus si c'est l'été, l'hiver, voilà. Et du coup, on a une très forte perte de poils, et moi j'observe en ce moment, et c'était pas pendant la canicule, c'était juste après, une très forte perte de poils chez les chiens et les chats.
Oui, oui, parce mais que très c'est forte. Quelque chose qui est pas
dans le sens où on a vraiment
qui perturbe en fait le rythme,
voilà,
le cycle.
Exactement, et ça peut être dû à ça, Hans. En tout cas, donner un complément pour le poil. Alors, ça peut être dû à d'autres choses. Si vraiment le poil continue à vraiment tomber, et si vous voyez la peau, il faut aussi faire d'autres examens, comme des examens hormonaux, par exemple.
Parfait, merci Hans. Laetitia, bientôt 7h, la météo, les infos. Et on est de retour sur RMC. À tout de suite.
RMC, 6h-8h. Vos animaux.